RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Toute l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, 23 dossiers de candidature déposés au Gabon en vue de la présidentielle du 12 avril. Le casse-tête en RDC pour assurer la continuité des services de l'État et notamment la paye des fonctionnaires dans les zones sous contrôle du M23. La crainte ensuite de la société civile sud-soudanaise sur le risque bien réel de nouvelles guerres civiles. Également au sommaire, la Guinée, 8 mois aujourd'hui que les figures de la société civile Mamadou Biloba et Fony Kemenge ont disparu. La reprise du transport de passagers entre Madagascar et les Comores après 5 mois de suspension. Et puis un hommage à Bernard Dadier, ce grand écrivain ivoirien qui nous a quittés il y a 6 ans aujourd'hui. Un film retraçant son parcours sera projeté ce soir à l'Institut Goethe d'Abidjan. Ils sont donc 23 au Gabon pour l'élection présidentielle prévue le mois prochain. 23 prétendants qui ont déposé leur dossier de candidature au ministère de l'Intérieur. Il est désormais trop tard pour le faire. Le délai se refermait hier. Et manifestement, Magali Lagrange, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, sera de la partie.
Comme il l'avait annoncé en début de semaine, Brice Clotaire-Oligui Nguema a bien déposé son dossier de candidature hier. Le président de la transition a précisé s'être mis en disponibilité de l'armée, condition fixée par le code électoral gabonais pour qu'un militaire puisse se porter candidat. Parmi les dossiers déposés figurent aussi ceux de l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, du syndicaliste Jean-Rémi Yama, figure de la société civile gabonaise très critique du régime d'Ali Bongo, sous lequel il a été emprisonné à 2 reprises, et de Pierre Claver Maganga Moussavou, le fondateur du PSD, qui a déjà brigué la présidence à 4 reprises. Il est toutefois âgé de 72 ans. Les textes stipulent que les candidats doivent avoir entre 35 et 70 ans. Albert Ondo Ossa, qui s'était présenté face à Ali Bongo à la présidentielle de 2023, ne figure pas parmi les candidats cette fois-ci. Les dossiers doivent maintenant être étudiés avant la publication de la liste des candidats retenus. Plusieurs d'entre eux demandent un petit délai supplémentaire pour pouvoir obtenir les documents manquants, notamment la quittance du Trésor prouvant que la caution de 30 millions de francs CFA a bien été déposée.
Magali Lagrange, notons d'ailleurs que la campagne électorale débutera le 29 mars au Gabon, la présidentielle fixée quant à elle, je vous le rappelle, au 12 avril. Les combats qui se poursuivent dans l'est de la RDC depuis 2 jours, de violents affrontements signalés autour de Massissi au nord Kivu, entre la FC M23, toujours soutenue par le Rwanda, et l'armée congolaise appuyée quant à elle par les milices Wazalendo, des milices d'ailleurs accusées d'une attaque ayant fait au moins 40 de morts civile dans la nuit de mercredi à jeudi dans le village de Tambi. Et cette question également, à l'heure où le M23 a pris le contrôle de plusieurs villes comme Goma ou Bukavu, comment gérer la situation des fonctionnaires? Comment assurer leur paye? Pour le moment, les banques restent fermées dans ces 2 villes ainsi que dans plusieurs autres localités. C'est donc un défi pour l'administration parallèle de l'AFC M23, mais aussi pour le gouvernement de Kinshasa qui veut préserver l'unité de l'administration. Décryptage, Patient Ligodi.
Les fonctionnaires des provinces sont payés grâce aux recettes locales. Mais aujourd'hui, ces revenus échappent à l'administration officielle. Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est délocalisé à Uvira et celui du Nord Kivu à Beni suite à l'offensive de l'AFC M23. Depuis ces villes, ils tentent de fonctionner mais n'ont pas la main sur l'ensemble des recettes, ce qui complique encore plus la situation. Rien que pour le Sud Kivu, la masse salariale des fonctionnaires provinciaux atteint environ 900 000 dollars par mois. À cela s'ajoute un autre défi, tous les fonctionnaires ne relèvent pas de la gestion provinciale. Certains dépendent directement de Kinshasa où des solutions sont à l'étude. Comment leur envoyer de l'argent sans risquer de financer indirectement l'AFC M23 au ministère de la fonction publique? L'une des pistes envisagées est d'abord une mise en disponibilité d'office, ce qui signifie que l'absence au travail ne conduira pas à des sanctions administratives. Une autre problématique concerne les agents qui ont fui leur zone d'affectation, certains ayant même trouvé refuge dans des pays voisins. À Kinshasa, on réfléchit à un paiement via la téléphonie mobile, mais cette option nécessite des préalables logistiques avant d'être mise en œuvre. De son côté, l'AFC M23 affirme travailler sur la question des salaires, mais aucune décision officielle n'a été annoncée.
Patient Ligodi. Nous l'évoquions hier matin sur RFI, cette promesse du président sud-soudanais Salva Kiir, selon laquelle son pays n'allait pas retomber dans la guerre. Eh bien, cette promesse ne suffit manifestement pas à rassurer la société civile, inquiète face aux combats qui ont à nouveau éclaté ces dernières semaines entre l'armée et les forces de l'opposition fidèles au vice-président Riek Machar. Malgré un accord de paix conclu en 2018 et les appels au calme, le risque de nouvelles guerres civiles est plus que réel. C'est ce que déplore Jacqueline Nassiwa, présidente du Forum de la société civile sud-soudanaise.
Le pays est actuellement très fragile. Et si ces tensions ne s'apaisent pas, nous risquons un conflit national à grande échelle. Les gens sont en train de se replier sur leurs groupes ethniques, leurs politiques régionales. Cela ne nous aidera pas à guérir en tant qu'État. Un dialogue national est très important. Deuxièmement, j'appelle à l'unification des forces armées. Cela prend trop de temps et les différents groupes se sont réarmés, remobilisés. Il faut donc accorder beaucoup de financement et de soutien à l'intégration des forces afin que nous ayons une armée nationale unifiée. Sans armée unifiée, le reste ne peut pas bien avancer. Et les partis politiques doivent être démilitarisés. Donc tout cela n'arrivera que lorsque nous aurons une armée nationale et que les politiciens devront tous jouer sur un pied d'égalité en étant des politiciens et pas des militaires en même temps.
Les craintes de Jacqueline Nassiwa, cadre de la société civile sud-soudanaise. Au Tchad, garde à vue prolongée jusqu'à demain matin pour notre correspondant Olivier Monodji, également directeur de publication du journal Le Pays. Il est détenu depuis mercredi dans une cellule de la police judiciaire de N'Djamena sans que les motifs de son arrestation aient été notifiés. Il a été auditionné hier pendant 4 heures par 3 officiers de la PJ. Olivier Monodji doit désormais être déféré demain devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de N'Djamena. Mais ce dossier suscite en tout cas une vive inquiétude de l'Union des journalistes tchadiens qui parle ici d'une arrestation arbitraire. L'UJT évoque une grave atteinte à la liberté de la presse et aux garanties judiciaires prévues par la constitution du Tchad. Elle demande la libération immédiate de notre confrère et la restitution de son matériel de travail. En Guinée, cela fait 8 mois ce dimanche que Mamadou Biloba et Fonike Menge ont disparu, ces deux figures de la société civile. Cadre du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, ils ont été enlevés à Conakry le 9 juillet dernier. Depuis, leur famille reste sans nouvelles et le Premier ministre de la Transition, justement interrogé cette semaine sur leur disparition, affirme que les enquêtes se poursuivent. Pourtant, pour Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, tout laisserait à penser qu'aucune enquête n'a en réalité été ouverte.
8 mois durant, ni l'épouse de Fonike, ni l'épouse de Bilo, encore moins les témoins directs de leur enlèvement n'ont été contactés par la justice guinéenne pour être entendus. Donc, cela suppose qu'il n'y a jamais eu d'enquête ouverte, comme l'affirment les autorités. Je pense que c'était juste une fuite en avant pour servir l'opinion internationale en affirmant qu'il y a une enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, la coordination nationale du FNDC, n'avons jamais encouragé les familles des victimes à porter plainte devant les juridictions nationales, parce que convaincus au regard du statut des présumés coupables, la justice ne fera absolument rien. L'affaire sera classée sans suite, malheureusement. C'est pourquoi nous comptons maintenant sur la justice internationale, puisque la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Nous espérons que la justice sera rendue à l'international, parce que c'est un crime qui n'est pas frappé des prescriptions.
Ibrahima Diallo en Guinée. Près de 5 mois après sa suspension, la liaison maritime rétablie pour les passagers entre Madagascar et les Comores. Décision cette semaine du gouvernement malgache qui était à l'origine de cette suspension, officiellement en raison de l'épidémie de choléra dans l'archipel voisin, ce qu'avaient dénoncé les autorités comoriennes. Mais aujourd'hui, cette réouverture est donc une bonne nouvelle, du moins du côté malgache. Guilhem Fabry.
Malgaches et comoriens peuvent de nouveau circuler librement entre leurs îles. Les conditions sanitaires sont désormais réunies, affirme Valérie Ramon Zavel, ministre des Transports et de la Météorologie.
On a attendu des signaux très positifs de l'évolution de l'épidémie de choléra qui sévissait aux Comores. Pendant plusieurs semaines, on a pu voir qu'il n'y avait plus aucun cas. Et donc, c'est ça qui a été l'élément déterminant pour la levée de cette suspension des relations donc, entre les deux pays au niveau maritime.
En décembre dernier, le gouvernement malgache avait dans un premier temps réautorisé les échanges de marchandises avec les Comores. Mais depuis, il n'avait quasiment pas repris. Moroni n'ayant pas coopéré afin de protester contre le maintien de l'interdiction de circulation des passagers. Une situation qui a causé beaucoup de tort aux opérateurs économiques de Majunga, selon Christian Afakanj, député d'opposition de la ville.
Cette reprise est une bonne nouvelle parce que cette liaison, c'est capital pour l'économie de la ville de Majunga, en particulier l'exportation des gaz naturel et des bois de construction, des produits agricoles en général, du riz, des haricots. Tout le monde est content maintenant, tout le monde a soulagé.
Les autorités comoriennes et malgaches se disent également favorables à un rétablissement des liaisons aériennes entre les deux pays, suspendues depuis 2022. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
La mémoire de Bernard Dadier, toujours vive en Côte d'Ivoire, cette figure emblématique de la littérature africaine qui nous a quittés il y a 6 ans aujourd'hui. Ses œuvres, marquées par l'engagement et la transmission des valeurs africaines, inspirent toujours les nouvelles générations et elles continueront probablement à le faire. Et pour marquer cette date anniversaire, l'Institut Goethe d'Abidjan projette ce soir le documentaire Bernard Dadier, un homme de liberté, Abdoulaziz Diallo.
À travers des images d'archives et des témoignages, le documentaire de 78 minutes revient sur la vie et l'héritage de Bernard Dadier, écrivain, poète et homme politique. Un hommage rendu à celui qui, par ses mots, a dénoncé l'oppression coloniale et chanté l'identité africaine. Franck Herman Ekra est l'un des fondateurs de la bibliothèque Archives Bernard Bellin Dadier, qui coproduit le film. Il explique l'objectif de cette création.
Le principal intérêt de ce film est pédagogique. Il vient combler une faille, un déficit de culture historique sur une période pourtant récente, celle des années 1949, constitutive du roman national ivoirien. Il s'agit d'une invitation à nous réapproprier une histoire dont nous sommes à différents niveaux les continuateurs.
De Climbier à Patron de New York, en passant par la Ronde des Jours, Bernard Dadier a marqué la littérature ivoirienne et africaine. Ses œuvres, toujours étudiées dans les écoles, continuent d'influencer de nombreux écrivains, à l'image d'Anzata Ouattara, auteur de 19 ouvrages.
Bernard Dadier est pour tout écrivain ivoirien une figure emblématique. C'est vraiment le pionnier, l'icône de la littérature ivoirienne et au-delà africaine. Il a bercé notre enfance de par ses œuvres.
Le documentaire Bernard Dadier, un homme de liberté, projeté ce soir à l'Institut Goethe d'Abidjan, sera précédé d'une présentation sur la dimension poétique des libertés dans l'œuvre de Dadier. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Mais c'est sur la mémoire de Bernard Dadier que se referme ce journal. Mais notre matinale continue avec Marion Casanova.